On va se tourner maintenant, si vous le voulez, dans la première lettre de Pierre, chapitre 5. On a vu la semaine dernière le début, les quatre premiers versets, où on a détecté ou découvert les qualités d'un vrai berger. Et là, Pierre va continuer à nous donner des conseils. Pour vivre, c'était une lettre qu'il avait adressée à des chrétiens qui commençaient à souffrir la persécution, mais à travers eux, c'est à nous qu'il s'adresse aujourd'hui, en 2016, des gens qui habitent à Nice, et à tous ceux qui peuvent entendre ce message sur enregistrement. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que, comme le dit le cantique, sur elle nous pouvons compter. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle nous éclaire, elle nous encourage, elle nous exhorte, elle nous reprend. Elle nous équipe aussi pour toutes les œuvres que tu as voulues pour chacun de nous, Seigneur, et collectivement pour l'Église, ton Église, Seigneur. Seigneur, merci parce que sans elle, nous serions soumis aux vents et aux marées, aux courants de pensée. Merci parce que tu as permis que cette parole soit conservée, qu'elle nous parvienne intacte pratiquement, Seigneur. On sait que les variations des documents sont infimes par rapport à l'ensemble de ton enseignement. Ton esprit l'habite, Seigneur, il l'a inspiré, il nous la restitue, et nous savons quelle est la vérité. Par lui, Seigneur, par son témoignage, nous savons que nous sommes tes enfants. Seigneur, nous voulons grandir. Merci de nous aider ce matin à comprendre ta parole et surtout à la mettre en pratique dans nos vies pour qu'elle nous transforme, qu'elle touche le monde qui nous entoure, Seigneur. Amen. En parlant de persécution, on a dans la prière remercié Dieu pour cette libération de plusieurs otages ou plusieurs prisonniers qui avaient la double nationalité iranienne ou américaine et d'autres, et notamment la libération du pasteur Saïd. Et ça fait plus de 3 ans qu'il est emprisonné, et on imagine le bouleversement que ça représente. C'est plein de joie, lui qui était maltraité en prison, qui ne recevait pas les soins médicaux, qui était même torturé par moments. On imagine que de se retrouver libre, ça doit être un sentiment incroyable. Peut-être une préfiguration du sentiment que nous aurons lorsque nous nous retrouverons libres de ce monde, ouvert à l'arrivée de Jésus dans l'au-delà, dans le ciel, pour nous. Mais en même temps, je vous invite à continuer à prier pour lui et pour les autres, parce qu'on imagine que c'est une adaptation difficile. Je crois que c'est Élie qui priait justement pour que on a tendance à idéaliser la personne qui n'est pas là, et puis on retrouve la réalité d'une personne, et c'est peut-être difficile de se faire à l'idée de pouvoir se voir tous les jours, de réapprendre à vivre ensemble. Donc, c'est une très bonne nouvelle, et on se réjouit de la fidélité du Seigneur qui a répondu. Mais on imagine aussi que ça doit être quelque chose de difficile à vivre. On pense à toute l'Église persécutée aussi, de par le monde. Il y a eu une émission intéressante sur Internet, en direct, je crois que c'était vendredi soir, oui, vendredi soir, de Portes Ouvertes, qui parlait de l'index de la persécution. Et il y a de plus en plus des zones du monde où les chrétiens sont persécutés. N'oublions pas nos frères et sœurs qui sont dans ces situations, sachant que la tendance est plus à... On va plus vers la persécution que la libération, même en Europe et dans le monde. Ce qui ne devrait pas nous surprendre, c'est ce que nous dit la parole. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, ce passage, à partir du verset 5 du chapitre 5 de 1 Pierre, c'est page 266 dans la Bible à la Colombe. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermes en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui est en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Et puis un petit post-scriptum, c'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner que telle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. L'élu qui est à Babylone vous salue de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Amen. Un passage intéressant, un passage riche, un passage où il y a des versets, un passage que je vous invite à mémoriser, si vous cherchez des passages à mémoriser, c'en est un. Et cet accent qui est mis sur l'humilité, sur l'importance d'entre nous de faire preuve d'humilité. Revêtez-vous d'humilité, dit-il au verset 5. Il s'adresse d'abord aux jeunes gens. Soyez soumis aux anciens, c'est-à-dire que les jeunes et les jeunes femmes, les jeunes hommes croyants doivent avoir du respect et se soumettre à ceux qui sont plus mûrs qu'eux dans la foi. On a vu que les anciens, ce n'est pas nécessairement les gens âgés. L'âge devrait avoir une relation avec la maturité spirituelle. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et les jeunes, ce sont ce qu'il appelle les néophytes. On utilise ce mot pour dire quelqu'un qui est nouveau dans un domaine. Et normalement, les jeunes gens sont moins mûrs spirituellement que leurs anciens, pas du fait de qualité qui leur manquerait, mais du simple et fait pratique de l'expérience de la vie. Cette soumission, on en a déjà parlé, c'est pas une soumission abjecte où l'un s'enorgueillit d'avoir le pouvoir sur les autres, mais c'est cette soumission qui fait que l'ensemble peut fonctionner ensemble. Un exemple, on l'a dit, c'est dans l'armée, le capitaine doit se soumettre au colonel. Ça ne veut pas dire que le capitaine soit plus bête que le colonel. On pense par exemple au grand auteur français très connu, Saint-Exupéry. Il était dans l'armée, il avait des autorités à qui il devait se soumettre. Et pourtant, on ne se souvient pas du nom de son colonel, mais on se souvient d'Alexandre de Saint-Exupéry. Et ça, c'est cette soumission Et en fait, 1 Timothée 4, 12 nous dit que la soumission, c'est une preuve de maturité. On a souvent la tendance que quand on est fort, qu'on est mûr, on envoie balader tout le monde. Alors qu'en fait, quelqu'un qui peut se soumettre, qui peut respecter ceux qui sont en autorité placés sur lui ou sur elle, c'est lui qui fait preuve de maturité. Revêtez-vous d'humilité, c'est le terme qui est exprimé pour dire qu'un esclave, lorsqu'il se revêtait d'un tablier pour servir ses maîtres ou son maître, il se revêtait de ce tablier. Et c'est la même idée, c'est l'idée qu'on retrouve lorsque Jésus a lavé les pieds des disciples dans Jean 13, où il s'est revêtu d'un tablier pour servir les autres. Sous ce tablier étaient réunis tous les autres vêtements, et ça permettait d'avoir une plus grande liberté de mouvement. Et en fait, cette humilité, elle est un peu le vernis qui fait que toutes les autres qualités du chrétien, toutes les autres vertus, elles sont plus belles. La gentillesse, la générosité, la justice, la bonté, la patience sont vraiment davantage admirables lorsqu'il y a ce vernis de l'humilité. C'est presque un peu gênant de parler du vernis et de l'humilité parce que le vernis, ça brille, l'humilité, c'est mat. C'est quelque chose qu'on remarque pas mais qu'on apprécie. C'est l'absence d'humilité qui est vraiment désagréable. On aime que les gens autour de nous soient humbles. En général, on n'aime pas les gens orgueilleux, les gens prétentieux, les gens arrogants. Mais la question c'est, est-ce que moi je manifeste une humilité ? Et l'humilité, elle n'est pas facile à saisir parce que dès qu'on en prend conscience, on la perd. Qu'est-ce que je suis humble ? Je me surprends dans mon humilité. Je suis le plus fort dans l'humilité. Hop ! C'est autodestruction de l'humilité. Donc l'humilité, c'est, quelqu'un l'a très bien dit, c'est pas de penser de soi qu'on est le dernier des imbéciles ou le dernier des chrétiens. Oh, je vaux rien, je sais rien faire, personne ne m'aime. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est plus penser à soi, c'est penser aux autres. La vraie humilité, elle n'est pas consciente d'elle-même, elle n'est pas centrée sur soi, elle est centrée sur Christ et sur le service aux autres. C'est intéressant que Pierre cite le Proverbe 3:34. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est aussi un passage que Jacques reprend lui aussi. Jacques 4:6 cite le même proverbe. C'est un thème récurrent, ce n'est pas un accident de dire que c'est bien d'être humble, c'est une constance dans toute la parole révélée de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Être orgueilleux, c'est se montrer ou se considérer être au-dessus des autres. Et Dieu, il est dit, résiste, et c'est le terme militaire, il ordonne ses troupes, il organise sa défense, son attaque. Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, il donne sa grâce aux humbles, à ceux qui sont humbles, qui font preuve d'une réelle humilité. Et à mon avis, ce n'est pas une bonne idée d'être en guerre contre Dieu. Si vous avez une tendance à l'orgueil, et qui ne l'a pas ? Ça fait partie de notre vieille nature. C'est ce qui a causé Satan, la perte de Satan. Dans Ésaïe 14, 13, on voit, il est question de l'orgueil de Satan qui est présenté là contre le roi, comme le roi de Babylone. Tu disais en ton cœur, c'est la prophétie d'Ésaïe contre Satan, présenté ici comme le roi de Babylone. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux au plus profond du nord, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais le résultat, tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Satan, c'est un ange qui s'est rebellé contre Dieu par orgueil. Il a voulu se faire aussi grand que Dieu. C'est par l'orgueil qu'il a conduit Adam et Ève à pécher contre Dieu, en leur faisant croire que Dieu leur cachait le secret de la puissance et que, en fait, ils pouvaient chercher à connaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'ils seraient aussi grands que Dieu. Cette tendance, on l'a tous malheureusement en nous. Et c'est pour ça qu'il faut la grâce de Dieu, il faut la prière, il faut l'aide de Dieu pour vraiment avoir de l'humilité. Et là, il y a des ouvrages, en particulier un très beau livre d'un prédicateur sud-africain, Andrew Murray, qui s'appelle L'humilité, je crois. Et je sais que Nancy aime bien cet auteur, et une année, à Noël, je lui avais offert ce livre, sans réaliser que ça pouvait être mal pris de sa part. Tiens, ma chérie, je t'offre un livre sur l'humilité. Non, c'est une évocation l'humilité même dont Jésus nous a donné l'exemple. Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé, mon fardeau léger. L'humilité, c'était le mot grec, était aussi utilisé lorsque les géographes parlaient du cours du Nil, lorsqu'il était presque à sec. Il était humble, il ne débordait pas, il n'était pas cette humilité, il était présent. Mais il n'y avait pas d'orgueil. Et c'est vrai que Dieu déteste l'orgueil et il est si courant parmi les hommes. Je me souviens d'une expérience ou d'un sentiment que j'avais éprouvé. On avait passé un an dans une école biblique perdu au fin fond de l'Alberta, dans les champs de blé de l'Ouest canadien. Et il y avait essentiellement, on vivait un peu en autarcie chrétienne, il y avait une école biblique de près de 3000 personnes, étudiants et professeurs. Et bien sûr, avec un tel nombre, il y avait sans doute des péchés, il y avait sans doute des choses terribles. Mais en même temps, il y avait des qualités chrétiennes qui étaient vécues là-bas. Et je me rappelle que j'étais revenu et que j'avais repris mon travail à Seattle, une grande ville dans l'informatique. Et j'étais frappé, j'étais choqué par la façon dont les gens se vantaient des choses qu'ils accomplissaient. Encore une fois, je ne venais pas d'un milieu parfait. Mais j'avais pris conscience que dans le monde, l'orgueil, le fait de dire on est les meilleurs, le fait de dire j'ai fait ceci et cela, c'est tellement naturel. Et bien sûr, en y regardant de près, j'ai cette tendance en moi et je suis Peut-être que certains trouvent que je pue d'orgueil, c'est possible, des fois on voit mal son propre péché, mais sachez que Dieu résiste, c'est le terme militaire, il aligne son armée pour combattre l'orgueil. L'orgueil mobilise les armées de Dieu. Nous, c'est les attentats au Mali qui vont mobiliser les armées de la France. Dieu, c'est l'orgueil qui mobilise ses armées. Et il est dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Et là aussi, dans cette même école biblique, j'avais fait l'expérience de voir quelqu'un qui s'abaissait et qui était élevé. Et en fait, c'était un responsable de l'administration de cette école biblique, qui n'était pas un professeur, mais juste un directeur assez haut placé, qui s'appelait Selmer Hansen. Hansen. Je vous donne son nom pour vous rappeler que c'était vraiment une expérience pratique. Et dans cette école, le dimanche, il y avait un culte le matin. L'après-midi, on nous encourageait fortement à nous reposer, faire la sieste. Les enfants ne devaient pas courir dans le campus. Ils détestaient ça. Mais c'était bien, on devait se reposer. Et le soir, après le repas, il y avait encore un autre culte. Et c'était plus un culte de louange, de prière. Et souvent, les gens étaient invités à prendre la parole, à partager quelque chose que Dieu leur avait mis sur le cœur. Et je me souviendrai toujours de cet homme qui était hautement respecté, c'était quelqu'un de haut placé, qui était venu demander pardon à l'école biblique, à tous les gens qui étaient là, en leur disant que le Seigneur lui avait montré qu'il traitait les gens avec orgueil, qu'il avait tendance à les traiter comme des moins que rien. Il n'était pas souple dans ses rapports, il n'était pas... Et il disait ces choses avec beaucoup de regret, on voyait que c'était sincère, que personne ne lui avait demandé de le faire, si ce n'est Dieu. Et en même temps qu'il faisait ça, il s'abaissait devant nous. Pour moi, cet homme était élevé par Dieu. J'avais plus de respect et d'admiration pour son courage à admettre qu'il était orgueilleux. Et c'est ce principe. C'est un peu des vases communicants. Dieu, si on s'élève, il va nous abaisser. Si on s'abaisse, il va nous élever en son temps, en temps voulu. Humiliez-vous. Ça veut dire, laissez-vous être humilié par Dieu. C'est une forme qui veut dire Dieu va vous humilier, mais acceptez-le et recevez-le, sachant que Dieu vous aime et va faire quelque chose de bien à travers cette humiliation. L'appel à l'humilité, c'est un premier point, et c'est une façon, ça continue, on va voir que c'est une façon de lutter contre notre ennemi. Mais Dieu, lorsqu'on est humble devant lui, on peut se décharger sur lui de tous nos soucis. Donc ce n'est pas des points séparés, c'est une dynamique. On ne peut recevoir que si on a les mains vides. Peut-être arrivé des fois de porter tellement de sacs avec des clés, des choses, vous ne savez plus si vous avez encore si ce que vous touchez c'est le sac à droite ou à gauche. Et si on vous amène quelque chose, vous dites je ne peux pas. Et souvent quand on vient à Dieu, si on vient avec tout un bagage, qu'on pense qu'on est quelque chose de grand, d'important, s'il n'y a pas cette humilité, on ne va pas pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et là, c'est l'invitation, verset 7, ça c'est un verset à mémoriser, à vivre surtout. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. En anglais, c'est le verbe jeter sur lui tous vos soucis. C'est effectivement plus fort que simplement poser des fardeaux. C'est vraiment faire un acte volontaire de dire ces soucis qui m'accablent, je les prends et je les décharge, je les pose sur Jésus. Tous vos soucis, car il prend soin de vous. Les soucis qui nous empoisonnent la vie. J'aime bien, il y avait cette expression parmi les jeunes il y a quelques années, peut-être encore aujourd'hui, peut-être moins. Mais on demandait quelque chose à quelqu'un, il disait « pas de souci ». Pas de souci, c'est une belle expression. Parce que c'est vrai, on peut se soucier, est-ce que tu vas vraiment faire ce que je te demande ? Pas de souci. Quelqu'un a dit, les soucis sont les intérêts, que nous payons aujourd'hui pour les ennuis de demain. Chaque jour suffit sa peine. Et ce qui est terrible, c'est que dans la majorité des cas, on se fait du souci pour des choses qui ne vont jamais arriver. Mais ça prend de notre énergie mentale, de nos émotions, on a peur de telle et telle chose. On raconte dans un hôpital psychiatrique, il y avait un patient qui avait l'oreille collée au mur. Et il dit à l'infirmier qui est rentré, « Chut, vous faites trop de bruit. » Alors l'infirmier met aussi l'oreille au mur et dit, « Mais je n'entends rien. » Et l'homme lui répond, « Justement, moi non plus, et c'est comme ça depuis ce matin. » Il attendait, il se faisait du souci. Il n'y avait rien qui se passait. Le mot qui est utilisé en grec pour le qu'on traduit par souci, ça vient d'une racine qui veut dire être divisé, être tiré dans deux directions. Nos espoirs, nos attentes, nos désirs nous tirent d'un côté, mais nos peurs nous tirent de l'autre. J'aimerais bien avoir un travail intéressant qui paye bien. Mais vu la conjoncture, vu l'efficacité de Pôle emploi, vu ma chance, sans doute je ne vais rien obtenir. Et on est sous tension, on est divisé, on est déchiré. Quand il dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis », Pierre utilise une forme qui veut dire « faites-le une bonne fois pour toutes, passez le fardeau de vos soucis à Dieu. » Si vous y pensez bien, la plupart du temps, votre esprit est occupé par des soucis. Et le problème, c'est que des fois, on se décharge de nos soucis quand on est à l'église, qu'on prie, mais souvent, on repart et on reprend notre sac à dos de soucis et on se recharge. Je me souviens, il y a quelques années, je travaillais dans une auberge de jeunesse à Nice. Et une fois, je voyais quelqu'un qui prenait son petit-déj avec son sac à dos. Et je lui dis, mais vous savez, vous pouvez poser le sac à dos. Et à l'époque, je lisais ce passage et je disais, c'est une bonne illustration. On a ces soucis, on les dépose, mais on les reprend. Non, il nous dit, débarrassez-vous de vos soucis, pas de certains soucis. Je vais en garder quelques-uns parce que ceux-là, ils sont vraiment importants. Puis je les aime bien. Je vais continuer à me soucier de ma santé. Je vais, je vais voir sur Internet si je n'ai pas des symptômes, je continue. Non. Tous vos soucis. Dieu peut nous encourager à travers ses soucis. Il a souci de nous. Il prend soin de nous. C'est un autre mot, mais c'est intéressant. En anglais, c'est « he cares for you », mais on peut lui donner nos soucis. Le mot anglais, c'est « cares ». Donc en anglais, il y a un jeu de mots qui n'existe pas dans le texte original. Mais c'est important de savoir qu'il est là pour prendre soin de nous. Prendre soin de nous. Quand on se décharge sur lui de tous nos soucis, il va pouvoir nous montrer son amour et son soin de nous en nous donnant d'abord le courage de confronter nos peurs, nos soucis. Ésaïe 41:10, « Sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Je te soutiens de ma droite, de ma main droite victorieuse. On peut avoir le courage de réaliser quels sont vraiment nos soucis. Et des fois, il y a des soucis qui sont dans le sac à dos. On n'a même pas réalisé qu'ils étaient dans le sac à dos. C'est des soucis un peu clandestins, des passagers clandestins. On ne sait même pas qu'ils sont là, mais quelque part, ils ajoutent à nos soucis et à notre inquiétude. On a tellement de bombardements, de raisons de soucis, et les chaînes d'infos en continu, qui nous disent, c'est vrai, on ne peut plus être tranquille à la terrasse d'un café sans se dire « Une voiture qui arrive là-bas, est-ce qu'il y a des calaches dedans ? » Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il va prendre soin de toi. Dieu, deuxièmement, nous donne la sagesse pour comprendre la situation, pour réaliser que ce qu'on craint est très improbable peut-être. Jacques nous disait, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne libéralement à tous, et elle lui sera donnée. » Il nous donne le courage, la sagesse, il nous donne la force de faire ce que nous devons. Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et puis il nous donne la foi de croire que Dieu va s'occuper, qu'il va s'occuper du reste. Psaume 37:5, « Remets ton sort à l'Éternel. » Confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Notre part, c'est de remettre notre sort à l'Éternel. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Il y a des actions à prendre, il y a des recherches d'emploi peut-être à faire, mais remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne se laissera jamais tomber. Chanceler le juste, psaume 55:23. C'est un enseignement qui se trouve dans toute la Bible. Mais la raison pour laquelle nous pouvons ne pas nous inquiéter, c'est parce que justement, Dieu prend soin de nous. On va juste pour vous rappeler que il n'y a pas de souci à se faire. Matthieu 6:24, 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été comme, vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste, qui sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Paul, dans Philippiens, nous dit « Ne vous inquiétez rien, mais priez pour tout. Remettez tous vos soucis à Dieu. » Alors c'est vrai que nous vivons dans un monde d'incertitude, mais pour le chrétien, incertitude ne rime pas avec inquiétude. Amen. Nous connaissons un Dieu qui nous aime et nous pouvons recevoir la paix de Dieu. On a dit que les soucis, c'était être divisé. Le mot de paix, de façon étrange, ça veut dire être réuni. Il n'y a plus de schizophrénie dans notre vie. Entre nos aspirations et nos peurs, nous sommes réunis, nous pouvons nous tourner vers Dieu, venir à lui avec tous nos soucis. Ce serait intéressant que chacun fasse une liste de ses soucis et qu'on puisse les compiler et les remettre à Dieu. On ne va pas le faire pratiquement, mais vous pouvez le faire physiquement, personnellement. Faites la liste de tous vos soucis. La peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de du besoin financier, et vous pouvez tout lui remettre. Et l'inquiétude, c'est un péché parce que c'est un manque de foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. L'inquiétude, c'est de l'orgueil parce qu'on regarde à soi au lieu de regarder à Dieu. On pense on devrait avoir les capacités, ou qu'on les a, mais qu'on ne sait pas encore bien les utiliser, de régler tous nos problèmes, toutes nos situations. Il y avait un joli poème qui a été mis en musique par un musicien américain, Phil Keaggy, qui raconte que le rouge-gorge dit au moineau « Il est une chose que j'aimerais bien comprendre. C'est pourquoi ces êtres humains ne peuvent se détendre. » Ils sont toujours pressés et se font tant de soucis. Et le moineau répondit au rouge-gorge, « Ami, je crois bien savoir pourquoi il en est ainsi. C'est parce qu'ils n'ont pas un Père céleste tel que celui qui prend soin de toi et de moi. » Nos soucis sont un mauvais témoignage pour ceux qui nous entourent. La femme de ce pasteur qui a été libérée a fait preuve d'un grand courage et a fait un puissant témoignage parce qu'elle a continué de se battre par monts et par veaux. Elle est allée parler aux Nations Unies, elle a parlé au président américain, elle a parlé au Parlement européen. Elle a mené un combat par la foi qui est un témoignage. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Le verset 7, en fait, dit que nos soucis lui importent. « Peut-être des gens autour de vous qui vous embêtent avec leurs soucis, ils ont peur de ceci ou peur de cela. Mais Dieu prend vraiment à cœur les choses qui vous troublent. Et Pierre continue en se focalisant sur notre véritable ennemi, le diable. La Bible parle du diable non pas comme d'une légende, mais comme une réalité existentielle. Le diable existe vraiment. Alors, c'est pas le petit diable qui porte un survêtement rouge avec un grand trident et une longue queue. Au contraire, c'était à l'origine une créature angélique, un ange de lumière qui a été déchu parce qu'il s'est rebellé par orgueil contre Dieu. On l'a vu dans Ésaïe 14, 13 et 14. Il a voulu se faire aussi grand que Dieu et il a été précipité. Le principe des vases communicants, il a voulu s'exalter au-dessus de Dieu. Dieu l'a rendu à son triste destin d'être perdu pour toujours, de jamais être en présence de Dieu. Soyez sobre, soyez vigilant, parce que il peut aveugler les gens. 2 Corinthiens 4:4 nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules. Sa meilleure stratégie, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, qu'il n'est qu'une légende. Et que les chrétiens qui croient en lui, à sa réalité, du moins, sont des gens obscurantistes, qui sont revenus au Moyen Âge. Veillez, ne vous laissez pas distraire. On les connaît, les distractions, les soucis du monde, la séduction des richesses, tout ce qui peut détourner nos pensées de la réalité de Dieu ou de penser à Dieu. Le sport, la musique, l'ordinateur, Internet, toutes ces choses-là. On peut s'endormir. D'ailleurs, c'est pour revenir à la femme de ce pasteur qui a été libérée. Récemment, elle a pris conscience des problèmes de l'Église occidentale, en voyant qu'en fait dans l'Église occidentale il y a des choses qui sont des choses héritées ou venues du monde. La soif d'être toujours plus grand, la soif d'avoir plus de personnes, la soif d'avoir plus de renommée, la soif d'avoir plus de moyens. Ces choses-là sont pas mauvaises si elles cherchent à servir Dieu, à faire grandir son royaume, mais le plus souvent, elles deviennent des fins en elles-mêmes. Et l'Église se laisse endormir par le monde et par ses tactiques. Le diable est comparé à un lion. Ce qui est formidable maintenant, c'est qu'avec les programmes télé sur des beaux écrans, on peut voir la beauté de ces animaux, la beauté de la nature sauvage. Mais c'est vrai que le lion est un animal redoutable. C'est pas pour rien qu'il est appelé le roi des animaux. C'est un animal qui peut peser jusqu'à 250-300 kilos. Qui peut mesurer du mufle jusqu'à la fin de la queue 2,50 m, voire 3 m. Il a une puissance fantastique. D'un coup de patte, il peut déséquilibrer un zèbre qui court devant lui, mais non seulement le déséquilibrer, mais la force de ses muscles. Un coup de patte, il peut casser les os de l'animal. Il a des crocs énormes, il mesure jusqu'à 5 cm. Il n'a pas de molaires, donc C'est un gros chat. Quand il mange, c'est plutôt en arrachant les morceaux de viande. C'est un animal redoutable et qui peut rôder en rugissant pour faire peur à ses proies. Il aime bien séparer. Même s'il est puissant, il utilise ses ressources à bon escient. Et plutôt que d'affronter un groupe d'animaux, il va attendre qu'un animal soit éloigné du troupeau. On voit même des films où s'il est menacé par un groupe de buffles qui se réunissent, il va prendre la fuite. Une bonne analogie au fait que si nous sommes ensemble pour prier contre ses œuvres, il va reculer. Mais il nous le dit ici, il cherche qui dévorer, résistez-lui, fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il aime bien isoler, l'animal aime bien isoler sa proie. Satan aime bien nous isoler en nous faisant croire qu'on est les seuls à avoir tel ou tel problème et nous donnant vraiment d'être découragés, de penser qu'on n'a pas d'autre solution que de céder à ce qu'il demande. Il aime rugir pour paralyser ses proies. L'animal, et lorsqu'il le fait, il est facile de n'en faire qu'une bouchée. Comme on a dit, il les arrache. Il a aussi des tactiques, il sait. Entre ses dents, il y a un espace à un moment donné, et c'est souvent dans cet espace qu'il va enserrer le cou de sa victime, étouffer. Étouffer sa victime, ne pas lui laisser recevoir d'air. Notre air, nous, c'est le Saint-Esprit, le diable va nous séparer, va couper l'arrivée de l'air spirituel. Et on va être là comme des animaux, on va suffoquer. D'où l'importance de résister. Faites face comme une armée que rien ne pourrait faire partir. Alors il faut faire attention, on ne nous demande pas d'attaquer le diable. Il y a certains chrétiens aujourd'hui qui sont là à chercher, à vouloir attaquer le diable. On n'est pas de taille. Même l'archange Michel, dans Jude 9, il est dit qu'il n'avait pas oser porter contre lui un jugement injurieux. On n'est pas appelé à faire des opérations commando contre Satan. Des fois, ça peut paraître excitant. Non. Résistons-lui, on ne fait pas le poids, mais résistons-lui, et il est dit dans Jacques 4, 7, que si nous résistons, il va fuir. Et on le voit dans la nature, encore une fois, lorsque les animaux se réunissent, qu'il résiste au lion, le lion décide que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le zèbre ne vaut pas les quelques coups de corne qu'on pourrait lui donner, qui pourraient lui être fatales. Le risque n'en vaut pas le résultat. Et donc il est important de savoir que les souffrances que nous vivons, et nous sommes plutôt favorisés, par rapport à nos frères persécutés, mais on n'est pas seul à souffrir. Et puis, il nous dit qu'il faut, après avoir parlé de l'orgueil du diable, il nous parle de Dieu, versets 10 et 11. C'est le Dieu de toute grâce. En Christ, nous a appelés à sa gloire éternelle. Il y a une promesse de souffrance après que vous aurez souffert un peu de temps, verset 10. Il va vous former, il va vous affermir, vous fortifier, vous rendre inébranlable. On avait vu qu'il ne fallait pas trouver comme quelque chose de bizarre les épreuves qui nous arrivent. Là, Pierre nous rappelle qu'il faut voir au-delà du moment présent de la souffrance. Ce Dieu de toute grâce, de tout réconfort spirituel, de toute aide, il nous appelle à sa gloire éternelle. C'est un peu le verset clé de cette lettre, savoir qu'il y a des souffrances, mais Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Tout est question de perspective, encore une fois, de savoir que la fin de l'histoire n'est pas là, n'est pas sur cette terre. Et Paul, dans 2 Corinthiens 4, 17, disait, on va lire les trois versets, 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Paul avait subi des souffrances terribles. Il y a des passages où il nous fait la liste de tout ce qu'il a subi pour servir Dieu. Mais il dit que tout ça, c'est des moments de légère affliction. Je ne sais pas si le pasteur Saïd est capable, il est encore jeune, peut-être que dans plusieurs années, il pourra parler de ses souffrances, de ces tortures qu'il a subies pendant 3 ans en prison. C'était un moment de légère affliction. Ça nous paraît impossible à considérer, mais vis-à-vis de ce qui nous attend, le poids éternel de gloire et la conséquence, aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Dieu, par crise, va nous former. C'est le mot qui est utilisé pour équiper. C'est le mot qui est utilisé lorsque les disciples réparaient leur filet. C'est le même mot. C'est nous rendre propres à être utilisés par lui. Donc les épreuves, c'est souvent la période de formation. Il va nous affermir, nous établir, il va nous fortifier, nous donner cette force dont nous avons besoin au jour le jour. Il va nous rendre inébranlables, une fondation que personne ne peut toucher. Et ces gens qui sont en prison, ces chrétiens qui souffrent pour leur foi, souvent, il leur suffirait de dire je renonce à ma foi en Christ pour qu'on leur donne, on les laisse libres ou qu'on leur donne la vie sauve, qu'on leur laisse la vie sauve, mais ils sont inébranlables. Ils affirment leur foi que Jésus est Seigneur. Et donc Pierre leur dit que ces persécutions vont vous rendre forts et aptes au service de Christ. On aimerait qu'il y ait d'autres façons de procéder, mais la réalité des choses, c'est comme dans la vie, c'est les épreuves qui nous forment. Verset 11, « À lui la puissance au siècle des siècles. » Important de ne pas attribuer plus d'importance au diable qu'il n'en mérite. Certains peuvent se concentrer sur ses actions, voir le diable partout. Il faut réaliser que Christ, que Dieu et le diable, ce n'est pas comme le yin et le yang. Ce n'est pas l'équivalent. Ce n'est pas deux principes qui s'affrontent. Et puis, il termine avec ce post-scriptum. Donc, je répète, à lui la puissance au siècle des siècles, pour l'enregistrement. Pas le diable. Pas se concentrer sur le diable, mais sur la puissance du Créateur contre la créature déchue. Ce n'est pas deux principes qui s'opposent, mais c'est quelqu'un qui se rebelle contre Dieu et qui essaye d'entraîner les autres à sa suite. Ce petit salutation à la fin, verset 12, il parle du frère Sylvain, à qui il écrit, ce qui se passait souvent, c'est qu'il y avait un secrétaire, et là c'est Sylvain ou Sylvanus, dans d'autres passages, qui notait les propos de Pierre, et là il prend la... À la fin, il prend la plume pour signer, pour montrer que c'est bien lui, comme un tampon ou un cachet qu'on appose sur une lettre tapée à la machine, une signature, pour dire que c'est bien lui qui écrit ces paroles. Et il veut que nous comprenions toujours mieux la grâce de Dieu. Cet amour que l'on ne mérite pas, mais qui nous permet de vivre. L'élu à Babylone, on pense probablement que ça veut dire l'église à Rome. Alors il y avait encore une ville de Babylone, il y avait aussi une ville de Babylone en Égypte. Mais la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agissait d'un terme comme un code pour pas attirer l'attention sur le fait qu'il était à Rome. Et l'élu, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés par Dieu, c'est l'Église qui est à Rome, vous salue. Et il parle de son fils Marc, je pense que c'était le cousin de Barnabas dont il est question dans Actes 12. C'était le fils spirituel de Pierre. Et on pense que l'évangile de Marc, c'est en fait Pierre qui parlait à Marc, et Marc qui a commis ces événements, ces faits, dans ce qu'on appelle l'évangile de Marc. Et puis, il termine par « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Je vous fais aussi la bise à tous et je vous souhaite la paix de Dieu. » Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous rappelle des choses essentielles dans notre vie. Le fait qu'on ne peut pas venir à toi si on est plein d'orgueil, Seigneur. Le fait que tu ne peux pas nous bénir si nous venons les mains pleines, pleins d'orgueil. Le fait que nous devons être vigilants, nous avons un réel adversaire, le diable qui rôde, qui nous isole, qui veut entraîner à sa suite, dans sa perte, le plus grand nombre de personnes. Et Seigneur, il suffit de lire les nouvelles, les journaux, d'écouter les médias, Seigneur, pour voir qu'il y a effectivement un être mauvais qui s'attache à détruire les hommes. Seigneur, merci pour Paul qui nous explique que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances dans les cieux qui s'opposent à toi, Seigneur. Nous le constatons, Seigneur, aide-nous à aimer ceux qui nous entourent, même lorsqu'ils sont animés par le diable pour s'opposer à nous. Merci pour ces chrétiens, merci pour l'exemple de Saïd, qui disait dans des lettres ne pas en vouloir à ces geôliers, à ces gens qui le torturent, parce qu'ils réalisent qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils sont animés par le diable, Seigneur. Les esprits du mal dans les lieux célestes, Seigneur, nous prions contre eux et nous te demandons de nous aider à mettre en pratique ces choses, Seigneur, à compter sur ton aide pour faire preuve d'humilité, pour te servir. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être accaparés, paralysés par nos soucis, mais à te les remettre, Seigneur, parce que toi, non seulement tu nous aimes, mais tu as les moyens, Seigneur, de prendre soin de nos vies. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Donne-nous de témoigner par la paix qui est la nôtre en toi, Seigneur, de ta réalité dans nos vies. Merci aussi, Seigneur, de nous donner de l'amour les uns pour les autres. Cet amour qui est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, parce que c'est le meilleur témoignage pour un monde qui se perd. Te remercions, Seigneur, pour cet épître, pour ce passage. Sois glorifié dans nos vies. Par le nom de Jésus, nous prions.